Voilà, bien que le Seigneur vous bénisse et tout simplement que vous puissiez recevoir dans la simplicité ces paroles, cet enseignement qui est de la parole de Dieu. La destinée d'un arbre. Il y a beaucoup d'arbres malades sur notre planète en ce moment. Et il y a des épidémies sur les arbres assez incroyables, des arbres qui sont décimés, des forêts complètes. Et puis il y en a d'autres par contre qui brûlent. Les arbres sont vraiment mis à mal dans les temps qui viennent. Mais le Seigneur nous parle, prend l'exemple des arbres. Donc voilà, pour nous parler à nous, pour nous parler de nous. Quel arbre sommes-nous ? Jésus veut de bons arbres qui portent de bons fruits. Voilà, c'est aussi simple que cela. Il a un jour maudit un arbre qui n'avait pas de fruits ou qui n'allait pas porter de fruits. Hein, c'est dans Matthieu 21. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Alors ça donne lieu à un enseignement au sujet de la foi, mais c'est quand même d'abord le fait que Jésus ait trouvé un arbre qui ne portait pas de fruits alors qu'il était censé en porter. Et il a donc maudit et condamné cet arbre finalement, définitivement. Il a aussi donné une parabole sur ce qu'il cherche au fond. Dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9, il dit aussi cette parabole: un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-moi encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Ici, il y a un délai qui est laissé à l'arbre. D'accord, il ne porte pas de fruits encore. Mais, s'il te plaît, Seigneur, patiente. On va encore travailler pour cet arbre et il pourra porter du bon fruit. La patience de Dieu envers nous. Le Seigneur nous demande d'être attentifs aux fruits pour définir de quelle nature est l'arbre. Dans Matthieu, au chapitre 7, versets 15 à 20, c'est à la fin de son enseignement, donc du sermon sur la montagne. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits et le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il n'y a donc rien à attendre d'un arbre dont la nature est mauvaise. Il sera coupé et jeté au feu. Et c'est aussi donc au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Si le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais. Et si l'arbre est mauvais, il sera coupé et jeté au feu. Et là, ici, dans ce passage, Jésus est en train de parler des faux prophètes, de ceux qui enseignent et dont l'enseignement est mauvais, mais aussi dont la conduite est mauvaise. L'enseignement des prophètes autoproclamés ou même installés doit être examiné sérieusement et nous saurons alors s'ils sont de bons prophètes. Leur enseignement et leur vie, leur enseignement et leur attitude, c'est cela qui les définira. Dans Luc, toujours, c'est la même pensée, mais qui est exprimée plus largement. Chapitre 6 de Luc, versets 43 à 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ici, c'est la même pensée qui est appliquée plus largement, pas seulement aux prophètes, aux docteurs, aux enseignants, mais à tous. Et à tout homme, on reconnaît la nature à partir de ses paroles. Ici, il est question des paroles des hommes. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On reconnaît le fruit aux paroles. On reconnaît ce qui est dans le cœur. Et c'est donc la nature bonne ou mauvaise à partir des paroles. De bonnes paroles viennent d'un bon cœur, de mauvaises paroles viennent d'un cœur mauvais. Toujours dans Matthieu, chapitre 12, maintenant, versets 31 à 37, ce sont des passages qui se complètent donc mutuellement, avec des petites précisions et une petite orientation différente à chaque fois. Matthieu 12, versets 31 à 37. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Ici, très clairement, il est aussi question de l'arbre et de son fruit, mais tout l'ensemble du contexte insiste sur les paroles que l'on dit et sur ce que l'on proclame au sujet de Dieu et de Jésus lui-même. Il y a quand même cette référence à lire dans le psaume 52, versets 4 à 6. Bon, je vais prendre à partir du verset 3. « Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran ? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé. Fourbe que tu es, tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Très sévère condamnation ici de ce tyran qui parle par le mensonge, qui parle par la malice, qui est fourbe dans son cœur, qui aime les paroles de destruction, qui trompe par sa langue. Oui, nos paroles, notre langage en général et nos paroles nous engagent et révèlent ce qui est dans nos cœurs. Alors il y a tout simplement, j'ai relevé quatre points, quatre façons, on peut dire, de voir la question. D'abord, tout simplement, la nature du langage, la façon dont nous parlons, les mots employés, la grossièreté, la vulgarité, les plaisanteries, tout ça, ça ne fait pas partie du bon arbre que le Seigneur, du bon cœur, ça ne vient pas du bon cœur que le Seigneur veut susciter en nous. La manière dont nous parlons, les mots que nous employons, certains mots ne devraient pas pouvoir venir à notre bouche, parce qu'ils ne sont pas propres, ils ne sont pas selon l'Esprit de Dieu, selon la sainteté, selon la pureté. Donc notre langage, dit déjà ce qu'il y a dans notre cœur, les mots que nous employons. Après, il y a tout l'aspect de jugement que nous portons sur autrui, sur les choses, surtout les critiques, contestations, calomnies. Tout ça vient d'un mauvais cœur. Chaque fois que nous entrons dans l'esprit de critique, de dénonciation, ce ne provient pas du cœur de Dieu. Et on peut dire qu'il s'ajoute à cet aspect-là, il y a l'aspect de l'esprit de plaindre, de plainte, de se plaindre. Quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, ce n'est pas quelqu'un qui est rempli du fruit de l'Esprit de Dieu. Alors que la parole nous demande d'abonder en action de grâce. Or, nous sommes dans une société, mon épouse le faisait remarquer récemment, en ayant vu une séance tout simplement d'information des actualités, à la fin, elle s'est dit, mais en fait, tout le monde se plaint. Au cours de ces informations, il n'y avait que des plaintes. Ça, c'est le monde dans ce qu'il est, dans sa méconnaissance de Dieu, de l'œuvre de la grâce de Dieu. Mais nous-mêmes, dans nos propres vies, vraiment détournons-nous de tout esprit de plainte, d'apitoiement sur nous-mêmes et de critique et de contestation et de calomnie d'autrui. Et puis, il y a un troisième aspect qui est celui des discours philosophiques, spiritualistes ou religieux qui s'écartent de la révélation divine. Lorsque notre cœur est mal fondé, lorsque notre cœur est rempli de mauvais sentiments, très vite, il est accessible aux faux raisonnements de l'adversaire, aux fausses philosophies, aux fausses spiritualités, à tout ce qui fait illusion, parce que notre cœur n'est pas satisfait, parce qu'il est rempli d'amertume, il va prêter attention à des discours, des démonstrations qui s'écartent totalement de la vérité telle qu'elle a été transmise, généralement donc dans le monde, mais plus précisément dans l'Église, qui va s'écarter de la foi transmise au sein une fois pour toutes. Lorsque quelqu'un commence à engendrer des doctrines nouvelles, des approches particulières, spécieuses de la foi, qui s'écartent de la foi transmise au sein une fois pour toutes, parce qu'il n'y a rien de nouveau dans la foi. Tout a été donné, tout a été transmis dès le commencement. Eh bien, quelqu'un qui s'écarte de la saine doctrine biblique, c'est quelqu'un dont le cœur est travaillé par de mauvaises pensées, par de mauvais sentiments, qui a laissé de mauvaises émotions s'implanter dans sa vie. Et puis donc, enfin, il y a carrément les blasphèmes dont il est question. Et là, voilà, j'espère que vous n'êtes pas concernés par ce domaine, des gens qui blasphèment contre Dieu. Donc, voilà, frères et sœurs, tout simplement, que laissez-vous mûrir dans votre cœur, parce que vos paroles en rendront toujours compte. Vous ne pourrez pas cacher ce qui est dans votre cœur, ça ressortira nécessairement par vos paroles. Et alors, est-ce que ce seront des paroles qui glorifient le Seigneur et son œuvre ? Est-ce que ce seront des paroles qui prônent l'obéissance de la foi ? Ce sont ces paroles-là qui montrent que vous avez laissé le Seigneur purifier vos cœurs. Parce que bien sûr, notre cœur au départ, il est le même que quiconque. Mais si nous sommes venus à Christ, si nous sommes laissés instruire, imprégnés, purifiés dans nos cœurs, alors, eh bien, il va sortir de nos bouches des paroles de sainteté, des paroles d'obéissance, des paroles d'action de grâce, des paroles d'espérance, de joie, de foi. Voilà ce qui viendra. Je vous lis, vous savez, j'aime quand j'ai un passage comme celui-là à commenter, lire ce que un ancien a inscrit donc dans des commentaires. Un pasteur du 19e siècle, Frédéric Godet. Et voilà comment il commente donc ce passage de Luc, chapitre 6. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, et en retour, un mauvais arbre ne produit pas de bons fruits. Il y a une condition pour que notre parole ait une bonne influence sur le prochain, c'est que nous soyons bons nous-mêmes. Autrement, le cœur impénitent, inconverti, non sanctifié, percera à travers tous les appels à la repentance, à la conversion et à la sanctification. Les fruits de l'arbre sont dans ce passage les fruits de notre travail chez les autres. L'homme orgueilleux prêchera sans succès l'humilité. L'homme égoïste, la charité. La vertu intérieure manquera à cet enseignement. L'arbre gâté est celui qui a la maladie du chancre et dont les sucs sont incapables de produire des fruits savoureux. La liaison du verset 43-44 est celle-ci. Donc, car un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, en retour un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. Car chaque arbre se reconnaît à son propre fruit, on ne recueille pas des épines sur des figues, ni des ronces ne se récoltent sur du raisin. Ce fait est si vrai que chacun conclut sans hésiter de l'espèce d'un arbre à son fruit. On voit souvent en Palestine, derrière les haies d'épines et de ronces, des figuiers tout enguirlandés de jets grimpants de ceps de vigne. Le verset 45 formule le principe général sur lequel repose tout ce qui précède, la parole et la communication la plus immédiate de l'être. Un homme veut-il réformer les autres par sa parole ? Qu'il se réforme intérieurement lui-même. Jésus n'a déposé dans sa parole le principe de la transformation du monde que parce qu'il a été lui-même l'homme parfaitement bon. à ses disciples de continuer son œuvre par cette méthode, contre-pied de celle des pharisiens. Un passage analogue se trouve dans Matthieu à la fin du sermon sur la montagne, nous l'avons lu. Là, Jésus exhorte ses auditeurs à se garder des faux prophètes qui se trahissent comme tels par leurs mauvais fruits. Ces faux prophètes peuvent bien être dans ce précepte, comme dans celui de Luc, les pharisiens. Mais leurs fruits sont certainement, chez Matthieu, leurs propres œuvres morales, leur orgueil, leur avarice, leur hypocrisie, et non les effets produits par leur ministère, comme dans Luc. En échange, nous trouvons dans Matthieu 12 un passage tout semblable au nôtre, nous l'avons lu, quant au sens. Ici, les fruits de l'arbre sont évidemment, comme dans Luc, les paroles elles-mêmes, bonnes ou mauvaises, par leur nature et leur action. À partir du moment où nous sommes un bon arbre, où l'intérieur de nos âmes est purifié par le Seigneur, eh bien, la nature de nos paroles correspondra à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et l'effet de nos paroles sera là aussi. Il y aura un effet dans ce que nous allons dire. Il y a un proverbe qui me revient à l'esprit, je ne l'ai pas exactement, mais le sens c'est... En fait, les paroles dans la bouche d'un insensé n'ont pas d'effet, en fait. Ne produisent rien. Les plus belles paroles dans la bouche de quelqu'un qui n'a pas l'esprit consacré à Dieu, ça ne sert à rien, ça ne produit rien. Alors que le Seigneur nous aide vraiment à purifier nos cœurs, il est possible que vous ayez encore du mal à produire le fruit attendu. Mais comme la parabole le dit, si la sève du bon arbre, c'est-à-dire Jésus-Christ, coule dans vos veines, et si vous êtes planté dans un terrain qui est remué et enrichi par les vérités bibliques, alors vos paroles, qu'elles soient spontanées ou réfléchies, vos paroles finiront par traduire ce que Jésus met dans votre cœur, c'est-à-dire la pureté, l'obéissance, l'espérance, et elles seront convaincantes pour votre prochain. Vous impacterez, comme on dit maintenant, vous impacterez votre entourage parce que ce que vous direz correspondra à ce qu'il y a vraiment dans votre cœur. Amen.